Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci vous encouragera et vous équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.
Bonjour tout le monde, vous allez bien ?
Ouais,
moi aussi je vais bien, c'est super. Moi aussi j'ai hâte de partager cette nouvelle angle de la table. Comme Gabi l'a dit, on est dans une série et en fait on vient clôturer cette série. Est-ce que jusque-là vous avez bien aimé cette série ? Ça vous a parlé ? Ouais, un petit peu ? Ok, je veux aussi te rassurer, c'est que si tu n'étais pas là les dernières fois, tu n'as pas besoin d'avoir entendu pour comprendre ce qui va se passer ce matin, pas de problème. Et je t'invite aussi à aller écouter, on a des podcasts, tu peux réécouter les messages qui ont été donnés. Et en discutant avec Yves un petit peu de cette série, il m'a encouragé à partager sur la table communautaire. Comment vivre la table en communauté, ici en tant qu'église, bien sûr dans nos vies, à l'église, à l'extérieur de l'église. Et puis c'est de ça que je vais parler ce matin. Et quand je pense à la table, peut-être un petit court résumé. La table, c'est quoi ce concept ? Qu'est-ce que c'est que ce titre de série ? C'est un petit peu bizarre. Pour nous, la table, c'est synonyme de faire la vie ensemble. Parce qu'autour de la table, c'est là qu'il y a les connexions. Et moi, quand je pense à la table, j'imagine souvent un repas où on mange trop bien, c'est trop cool, on a des bonnes discussions, où aussi on peut rigoler, tu sais, ce genre de truc où à la fin de la soirée, t'as tellement rigolé, t'es fatigué, mais une bonne fatigue, une bonne soirée, tu termines par un film ou par des jeux de société. Et c'est ça qu'on veut vivre, ces relations intentionnelles. La table, elle peut être physique, avec de la vraie nourriture autour de toi, mais c'est aussi juste un symbole. La table, c'est dans ta voiture avec tes enfants, au travail, une discussion intentionnelle où tu vas aimer les gens autour de toi, chez ton coiffeur. La semaine passée, je disais que moi, je ne vais pas chez le coiffeur, mais partout ailleurs, tu peux être intentionnel et aimer les gens. Et c'est ça l'idée. Donc, aujourd'hui, comment devrait prendre place la table ? Comment est-ce qu'on devrait faire la vie, ici à Home particulièrement ? Entre nous. Comment ça devrait se passer ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? On parle de communion fraternelle, tu as peut-être déjà entendu ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Comment est-ce qu'on devrait le vivre ? Et je t'invite déjà à ouvrir ta Bible, si tu en as une, avec moi, dans Jean 13. On rentre directement dans un texte. Si tu n'as pas de Bible, aucun problème, ça va s'afficher au-dessus de moi. Je vais le lire. Jean, il fait partie de ces quatre évangélistes qui ont écrit les quatre évangiles du Nouveau Testament. Il retrace la vie de Jésus, chacun aussi dans un angle différent. Et puis là, dans ce texte-là, on va lire en fait le dernier repas de Jésus avec ses disciples. On parle de la table, alors moi je prends un texte de table. Et le dernier repas, comment Jésus a vécu ce dernier repas avec ses disciples ? Et si tu lis ce texte-là dans les autres évangiles, il y aura d'autres détails qui ne sont pas racontés ici, et ici des détails qui ne sont pas racontés dans les autres. Alors, on s'en va dans un petit peu de lecture. Jean 13, dès le verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu vas me laver les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » On saute au verset 12. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, parce que je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. » Yes, il y a plein de choses intéressantes dans ce texte et des choses bizarres. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu phobiques des pieds comme ça, non ? Toucher un pied, non ? On va faire ça ce matin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais, non, les pieds, c'est sensible. Hein. Attention, il y a des gens, c'est vraiment... Non, je ne peux pas même pas en voir pour certains, tu vois. Je sais pas comment vous faites à la piscine ou à la plage. Peut-être que vous y allez juste pas, comme moi, je vais pas chez le coiffeur, je sais pas. À partir de là, j'aimerais... de ce texte, puis après on continuera un peu plus loin dans ce texte, dresser trois tables avec vous, trois points. Et la première table, c'est la table de l'amour. la table de l'amour. Et puis je vais reprendre un petit peu ce texte, expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Jésus commence en disant, ok, je sais que l'étape d'après pour moi, ça va être la mort sur la croix, la mort, la résurrection. Et le texte dit, ayant aimé tous les gens sur terre, pendant son ministère, il va les aimer jusqu'à l'extrême. C'est ce que le texte dit. Et cet amour à l'extrême, ça représente vraiment la croix, ce qu'il va faire. Cet amour extrême. Après, il dit, ok, je sais que Judas va aussi me trahir. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il se dit ? Tiens, je vais laver les pieds de mes disciples. Bizarre. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. En fait, il savait ce qu'il allait faire. Il savait exactement ce qu'il allait faire, mourir à la croix, cet amour extrême. Et Jésus décide, en fait, de donner une illustration, un exemple. Il veut expliquer à ses disciples le sens de cet amour extrême par un symbole qui est fort de laver les pieds des disciples. Et il cherche à expliquer cet amour-là. Et il faut juste remettre un petit peu le contexte pour qu'on comprenne bien ce qui s'est passé. On connaît ce texte. Hein. Jésus lève les pieds des disciples. On a déjà vu dans des églises, justement, des gens qui se lavent les pieds entre eux et tout. Voilà. Et il faut quand même savoir, à l'époque, les disciples, ils n'avaient pas des baskets, okay, pas des Nike fermés et tout. Ils n'avaient en tout cas pas les moyens, je pense. Mais ils avaient des chaussures ouvertes. Il y avait plein de poussière, possiblement. Ils pouvaient marcher dans l'eau, il pouvait pleuvoir. Ça avait une sorte de petite terre. Ils ne prenaient pas une douche chaque jour. Possiblement qu'ils transpiraient aussi parce qu'il faisait chaud. Donc, au niveau des pieds, ce n'était pas juste des pieds que déjà nous, on trouve ça galère à laver. Ça devait être l'horreur, tu vois. Et non seulement ça, mais laver les pieds, dans une maison, c'était le rôle de l'esclave, la personne la plus basse dans la maison. Personne ne voulait faire ça, c'était la tâche ingrate. Et Jésus, il le dit lui-même, moi qui suis maître et seigneur, je me mets à cette position d'esclave devant vous. Je m'humilie devant vous pour vous servir, pour vous laver les pieds. Et je vous montre cet exemple-là. Et c'était quelque chose de nouveau, au point que Pierre, quand ça arrive à lui, parce qu'il faut savoir, hein, Pierre, je ne sais pas si tu as remarqué en lisant un peu ta Bible, Pierre, c'est celui qui ne peut pas garder sa bouche fermée. C'est l'extraverti un peu qui s'empresse de dire des choses, de faire des grandes promesses, des grandes choses. Non, tu as remarqué, il lave les pieds des disciples, et puis jusqu'à arriver à Pierre, les autres, bon, ok, je suis mal à l'aise, mais je le garde dedans. Pierre, non, qu'est-ce que tu fais ? Ce n'est pas possible. Non, toi, tu ne peux pas me laver les pieds, ce n'est pas possible. C'était surprenant, c'était nouveau, c'était inenvisageable, c'était trop bizarre même pour Pierre. Et je crois que nous, on devrait dresser une table d'amour les uns vers les autres et nous aimer cet amour extrême. Un amour qui fait que l'autre va dire « c'est trop, non, attends, je ne comprends pas, cet amour il est trop différent, il est trop profond, il me gêne presque tellement tu m'aimes, tellement cet amour il est vraiment extrême. » Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aimer d'un amour extrême ici ? Jésus donne cet exemple d'humilité. Il vient s'incliner et s'humilier devant ses disciples. Il les considère comme au-dessus d'eux. C'est fou, Jésus. On l'a chanté, il est le roi des rois, il était Dieu sur terre, il s'humilie aux pieds de ses disciples pour laver les pieds de ses disciples. Et l'amour, c'est un verbe d'action dans la Bible, c'est pas juste des paroles. Et Jésus, il a toujours aimé pas juste en paroles, mais aussi en action. Alors pratiquons l'amour extrême, aimons-nous les uns les autres, parce que c'est comme ça qu'on devrait vivre la table, entre autres, à home et en dehors. Un amour qui ne fait pas de sens, un amour surnaturel, un amour qui va peut-être choquer des gens ou mettre mal à l'aise des gens tellement on les aime. Et en fait, on a tellement besoin des autres, on a tellement besoin de cet amour. C'est la réalité, c'est qu'on a besoin d'être aimé. C'est au fond de nous, on a besoin les uns des autres, on a été créés par Dieu comme des êtres relationnels. On a vraiment, vraiment, vraiment besoin des gens autour de nous. Et la réalité, c'est que même ça a été prouvé. J'ai trouvé un article tellement intéressant, puis au travail, on en parlait aussi un petit peu. Je ne sais pas si tu savais, mais il y a des zones dans le monde qui s'appellent les zones bleues. C'est les endroits où il y a une concentration de nonagénaires et centenaires. Des endroits où les gens vivent plus longtemps qu'ailleurs. 4 ou 5 zones dans le monde, qu'on appelle ça les zones bleues. Et il y a plusieurs critères. Et un de ces critères-là, c'est les liens sociaux entre les gens. Et je n'ai pas le temps de te lire tout ce que j'avais prévu de te lire, mais c'est hyper intéressant. Juste un bout. On retrouve cette intense proximité sociale dans toutes les zones bleues, à commencer par la fameuse île des centenaires à Okinawa, au Japon. À Okinawa, les liens familiaux sont primordiaux et les personnes âgées sont respectées et honorées. Il n'y a pas de maison de retraite, plusieurs générations dans la même maison. Mais là-bas, la vie sociale est aussi enrichie par une institution typique qui s'appelle le Moai. Je ne sais pas si je prononce bien, c'est des japonais, plus tard on en discutera. C'est une sorte de club dans lequel on est inscrit pour toute la vie, dès le plus jeune âge. Les membres se rencontrent chaque semaine pour être ensemble, rigoler, chanter ou partager le thé. L'objectif à l'origine, c'était de régler des problèmes pratiques de la vie en communauté. Mais rapidement, les Moai sont devenus des familles étendues dans lesquelles chaque membre sait qu'il pourra s'appuyer les uns sur les autres en cas de difficulté. Un chercheur mentionne le cas de 2 femmes qui faisaient partie du même Moai depuis 98 ans. À 102 ans, juste normal, elles continuent à se voir et à boire du saké, c'est cool. il leur arrive de se disputer comme un vieux couple, mais elles savent qu'à la moindre difficulté, elles pourront compter l'une sur l'autre. Waouh ! Et on ne parle pas de l'Église là encore. C'est incroyable, c'est tout à fait l'Église, c'est tout à fait ça qu'on devrait vivre. On a besoin d'être aimé, on a besoin les uns les autres de vivre cette relation. Si tu veux vivre plus longtemps, aime les gens. En gros, c'est un des critères. On a besoin, en fait, tu as besoin d'être aimé, donc il faut que je t'aime. J'ai besoin d'être aimé, il faut que tu m'aimes. Il faut qu'on s'aime les uns les autres et de cet amour extrême et surnaturel. Et la réalité, c'est qu'on a tous besoin d'un Moai. Et ça s'appelle un city group en passant. Ça s'appelle un city group, les amis. On veut créer des espaces. On a défini cette thématique à la table en disant qu'on veut créer des espaces pour faire la vie ensemble plutôt que juste donner des bonnes idées depuis une plateforme. Des espaces à l'église et puis dans nos vies. Mais à l'église, il y a différentes plateformes. Et puis, on se voit avant la célébration. Après la célébration, il y a des City Hub, des Love Lausanne, des City Group. Si tout ça, tu ne sais pas ce que c'est, rendez-vous au Welcome Point à la fin, la petite table là-bas. Nad et moi, on sera là, on pourra t'expliquer tout ce que c'est. C'est des plateformes où on peut vivre cet amour. On peut dresser des tables d'amour pour s'aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus a demandé. Ce n'était pas une option. Aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, c'est dans ce texte de Jean 13, plus loin, que Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau ». C'était quelque chose de nouveau déjà, même à l'époque. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus dit ça pas par hasard. Regardez, je vous ai donné un exemple. Je me suis humilié devant vous, je vous ai servi alors que j'étais le maître. Et il va dire plus tard, il n'y a plus de maître, il n'y a plus d'esclaves, tout ça, en Dieu, devant Dieu, entre nous. Et bien en fait, on est liés par cet amour-là. Donc apprenons, et puis je vais te donner un peu des actions. Comment mettre ça en pratique? Fais passer l'autre avant toi. Et ça, on peut l'appliquer dans l'église. Quand tu viens à l'église, viens pas juste pour toi. Pense aux autres, pense qu'en fait, tu vas rencontrer d'autres personnes. Pense et prie pour les gens pour qu'eux aussi vivent quelque chose. Autour d'une table, ça veut dire que, logiquement, si tu es bien élevé et poli, si tu as une cruche dans la main, tu vas servir d'abord les autres avant toi. Tu vas servir quand tu as le plat d'abord les autres et toi en dernier. Vis l'église comme ça. Vis l'église aussi comme ça. Ce que Jésus a fait, il a servi l'autre. Il a servi ses disciples en leur lavant les pieds. File un coup de main. On est tous dans des saisons de vie peut-être différentes. Peut-être à des enfants, c'est compliqué de venir plus tôt. On a le host team à 8h30 le matin, c'était tôt pour toi. Où on prend du temps pour connecter d'abord, parce qu'on veut faire passer les gens avant les tâches. D'abord pour connecter, puis après, on se répartit, on met la salle en place. C'est simple, c'est convivial. Tu peux filer un coup de main, tu peux servir les gens. Et de nouveau, ça peut s'appliquer dans l'église, mais dans ta vie, partout autour de toi. Partout autour de toi, sers les gens. Aie un esprit de service, développe cet esprit de service. Viens pas juste pour toi, sers les gens. Et cet amour-là, extrême, c'est un amour qui n'attend rien en retour. On peut donner notre temps, notre argent, notre énergie, et peut-être des fois ça va juste nous coûter quelque chose. Et fine, c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça, c'est cet amour-là que Jésus a donné. Et ça autour de la table, ça veut dire, non, prends la dernière part de gâteau, vas-y, prends-la. Et puis rien en retour, parce que une fois que c'est mangé, c'est fini, tu vois. Et si l'autre, il t'aime pareil, il va dire, non, toi prends cette dernière part de gâteau, ça peut durer longtemps, ok. Et on fait ensuite ce qu'on appelle le partage chrétien, on coupe bien en deux et on sépare, et voilà. Moi, j'aime toujours cette histoire de cette fausse politesse. Il y a une plus grosse part, une plus petite part, et puis tu arrives, et puis tu prends la plus grosse part de gâteau en premier. Hey, normalement, on prend la plus petite en premier. Toi, t'aurais fait quoi? J'aurais pris la plus petite. T'as la plus petite, j'ai la plus grosse, c'est pareil. Faites pas ça. Jésus a aimé les gens d'un amour extrême, et puis il a illustré en lavant les pieds des disciples. C'était un exemple vraiment incroyable. La deuxième table que j'aimerais dresser avec vous, c'est la table de l'honneur. La table de l'honneur. Et puis on va continuer le texte dans Jean 13 à partir du verset 21. On regarde la suite de l'histoire. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement « en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira ». Solennellement, ça met le malaise, c'est sûr. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, en passant à ses gens, il parle de lui comme ça. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus, parce que Pierre, forcément trop curieux, il faut qu'il parle. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt et il faisait nuit. Intéressant de nouveau et particulier comme texte, hein, plein d'éléments. Et je trouve ce rapport entre Jésus et Judas, il est incroyable. En étudiant un peu le contexte, ça m'a chamboulé. Je vais reprendre puis expliquer un petit peu. Jésus sait que Judas va le trahir dès le début du repas, mais Jésus inclut Judas à sa table. Il est le bienvenu. Et il faut remettre ça quand même dans le contexte que Judas, ce n'est pas juste un gars. Il a passé 3 ans avec Jésus, 24 sur 24. C'était son ami. C'était son disciple. Jésus a investi en lui. Il l'a aimé, il l'a expliqué, il a pris du temps avec lui. Il l'a choisi dans ses disciples. Il a vu des miracles, participer à des choses incroyables. Ils avaient cette proximité que quasiment personne sur terre pouvait dire « Moi, je suis un disciple de Jésus à ce point-là. » Jésus, sachant que cette personne-là qui est proche allait le trahir, il l'a inclus à sa table. Il était bienvenu à sa table, il lui a lavé les pieds aussi à lui. Et ce n'est pas tout. Tu as déjà vu cette peinture, je pense, de la Sainte Cène, hein, bien, bien classique, une table longue comme ça, personne de dos, voilà. Et ben, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait, la Sainte Cène à l'époque. La réalité, c'est qu'ils mangeaient à la romaine, c'est-à-dire couchés sur le côté, et ils étaient plus en quinconce et en rond. Alors, je peux comprendre, il y a sans doute une histoire pourquoi ils ont fait cette peinture comme ça. Mais donc, ils étaient couchés sur le côté gauche, mangeaient avec la main droite, notamment parce qu'ils s'essuyaient avec la main gauche, je passe les détails. Même s'ils se lavaient les deux mains avant de manger. Et en fait, ils étaient vraiment en quinconce. Donc, couchés comme ça sur la gauche. Et si moi, je suis Jean, ben, Jésus était comme ça, les pieds derrière moi. Et puis, j'avais le torse. Jean avait le torse de lui. Le torse de Jésus juste derrière lui. Il faisait juste un petit coucou. Et puis, il voyait Jésus. Et donc, en quinconce, comme ça, les gens étaient autour de la table. On comprend qu'il y a Jésus. À sa droite, il y a Jean. À sa droite, il y a Pierre. C'est pour ça que Pierre dit à Jean, demande à Jésus. Et moi, je pense que, parce que ça, c'est un peu bizarre. Et puis, on sait aussi que Judas était à gauche de Jésus. Et je trouve ça un peu bizarre de se dire, mais attends, Jésus fait une déclaration solennelle. L'un d'entre vous va me trahir. Et après, Pierre, il dit à Jean, demande à Jésus, qui demande. Et moi, je pense que, c'est mon interprétation, je pense que Jésus a répondu juste à Jean. Il n'a pas affiché tout le monde parce qu'après... Après, il donne le morceau. En plus, il dit qu'est-ce qu'il va faire. Tu vas voir Jean, je vais donner un morceau de pain, et puis c'est lui le traître. Et puis après, il dit à Judas, va faire ce que tu as à faire. Et les disciples ne comprennent pas, tu sais, alors qu'il a dit juste avant, je vais vous trahir. Je pense vraiment que c'est resté entre eux. Mais sur cette position vraiment intéressante, c'est que la personne à gauche de l'hôte, on va dire, donc la personne à gauche de Jésus, c'est la place d'honneur dans les repas. Et Jésus, je ne sais pas s'il l'a placé ou pas à cet endroit-là, Judas était à la place d'honneur dans le dernier repas de Jésus. Et peut-être, même si ce n'est pas par hasard, tu as remarqué qu'il prend le morceau de pain et qu'il le donne à Judas. Et ça aussi, à l'époque, prendre le morceau, le tremper dans le pot commun et le donner à la personne, c'était pour honorer une personne en particulier. Donc même si c'est par hasard qu'il est à gauche, Jésus choisit d'honorer Judas particulièrement. Incroyable. Incroyable. Il allait le trahir, lui faire du mal, le vendre. Judas, qui était le déclencheur que Jésus allait se faire arrêter, torturer et mourir à la croix. Jésus prend le temps de l'honorer à sa table. Impressionnant. Et ça, c'est une autre illustration de cet amour extrême et de comment est-ce qu'on devrait s'aimer les uns les autres. Et je crois que c'est terrible à dire, mais on a tous des Judas dans nos vies. C'est lourd. Le prénom Judas, c'est assez lourd, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et je ne vais pas forcément parler simplement de traîtrise. La réalité, c'est qu'on est tous, vis-à-vis de Dieu, traîtres, égoïstes, et on vend Dieu pour d'autres affaires, souvent dans nos vies, dans notre quotidien. Et pourtant, Dieu nous accepte. Quand on vient devant lui, Dieu nous aime pareil. Et Dieu nous appelle à aimer cet amour-là. Peut-être qu'il y a des gens dans ta vie qui t'ont trahi. Peut-être exactement comme Judas, des gens proches, des gens qui t'ont déçu fortement. Et que, je peux comprendre par sécurité, tu les as exclus de ta table. Exclus de ton amour, exclus d'une amitié, de quelque chose. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut effacer et puis dire qu'il ne s'est rien passé. Je ne veux pas minimiser ce que tu as vécu. Ça s'est passé, cette personne était responsable. Je l'accueille et puis je t'encourage à le mettre devant Dieu. Mais dresser une table d'honneur devant ces gens, c'est peut-être commencer par dire, je te pardonne. Je veux t'aimer au point que je te pardonne. Et en passant, le pardon, c'est d'abord pour soi, en fait. C'est se libérer soi-même. Dresser ces tables de l'honneur, peut-être face aux personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal, dans les églises peut-être, en dehors, dans le travail, comme je dis, en dehors même de l'église. Dresser une table d'honneur, c'est pas exposer, exactement comme Jésus l'a fait, il n'a pas exposé Judas. C'est peut-être pas parler dans le dos de ces gens, critiquer ouvertement auprès des autres cette personne-là. Bien sûr, oui, cette personne, tu peux en parler, elle m'a fait du mal, mais peut-être avec 2-3 personnes pour processer tout ça. Mais dresser une table d'honneur, c'est peut-être juste, pas parler en mal. C'est quand même respecter ces gens, aimer ces gens, et peut-être même au-delà, après guérison, après tout, c'est se réconcilier avec ces gens. Dresser une table d'honneur. Et je sais que c'est pas normal, c'est pas naturel, mais l'amour de Dieu, il n'est pas normal, il n'est pas naturel. vivent ça, la personne va vraiment se dire, waouh, c'est quoi cet amour exactement comme Pierre? C'est quoi cet amour extrême? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et Dieu nous montre encore, waouh, à quel point la croix, l'amour qu'il a eu pour nous, il veut qu'on l'ait les uns envers les autres. Aimons-nous les uns les autres. Parce que c'est à ça que les gens vont reconnaître qu'on est les disciples de Jésus. Amen. À Home, on veut être inclusif. Plus dans le côté, pas technique, j'allais dire, mais quand les gens viennent, soyons inclusifs. Aimons les gens, peu importe leur background, peu importe d'où ils viennent, peu importe qui ils sont. Ce n'est pas le rôle juste du pasteur ou des leaders d'accueillir puis d'aimer les gens. Et comme j'ai dit, ça ne devrait pas être une option d'accueillir et d'honorer les gens, peu importe qui ils sont en fait. Peu importe, Jésus a honoré Judas qui était à sa table. Et Home, on veut que les gens se sentent inclus. On veut que les gens se sentent appartenir à la communauté avant qu'ils croient, avant qu'ils soient comme nous, qu'ils parlent comme nous, qu'ils soient comme ci ou comme ça. On veut vraiment tous être des agents d'inclusion. Jésus a inclus Judas à sa table et nous, on veut inclure les gens, peu importe qui ils sont, à Home et dans la communauté, pour aimer comme lui, il aime. Évidemment, Dieu nous aime comme on est, mais il nous aime trop pour nous laisser comme on est. La réalité, c'est qu'on est tous en chemin. Et des fois, on peut voir des gens rentrer dans l'église, et moi-même, je suis challengé avec ça. On peut voir rentrer des gens dans l'église, et premièrement, c'est dire, qu'est-ce que lui, il fait là? Ou alors, oh, il est habillé comme ça, oh, il parle comme ça, oh, il vit sa foi tellement différemment de moi. Et ces gens-là, il faut qu'ils se sentent inclus. Il faut qu'on fasse cet effort et qu'on les aime et qu'on les honore pour qu'ils se sentent à la maison et qu'ils se sentent vraiment inclus, aimés, reconnus et qu'ils sentent qu'ils aient tout à fait leur place. En fait, notre rôle à nous, c'est d'aimer et d'accepter et le rôle de Jésus, c'est de transformer. Il y a une phrase qu'on dit ici à Home, c'est que Jésus, il est dans le business de la transformation. Mais ça, c'est son job à lui. Ce n'est pas à nous de changer les gens. Nous, on les aime, on les accepte, on les inclut, on les honore. Bien sûr qu'en fonction des relations, je ne dis pas qu'il faut être meilleur ami avec tout le monde. Il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des difficultés. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, les standards que je suis en train de mettre, ils sont élevés. Je réalise ça, mais je ne te dis pas qu'aujourd'hui, tu dois vivre comme ça. C'est qu'on doit tendre vers ça. On doit tous progresser en amour. Et je vais être honnête avec vous, je n'aime pas encore assez. Non, mais c'est vrai, je n'aime pas encore assez cet amour de Dieu. J'aimerais tellement mettre plus d'espace dans ma vie, plus de temps, plus d'énergie, plus de prières pour aimer les gens de cet amour extrême. Et je veux plus que ma première pensée soit « Ah, il est différent de moi », mais plutôt « Ah, trop bien, une personne de plus dans l'Église, une personne que je peux accueillir, une personne que je peux aimer, exactement comme Jésus l'a fait. » Alors, des actions. Parle aux gens que tu ne connais pas. Cesse un peu défiant, les gens que tu ne connais pas. Va de temps en temps parler aux gens qui sont différents de toi ou à qui peut-être tu as du mal, va te confronter à eux pour progresser dans ton amour pour cette personne. N'attends pas sur une welcome team pour accueillir les gens, rends les gens à l'aise d'être ici, fais en sorte que les gens se sentent chez eux. Et tu peux pratiquer ça vraiment partout ici à Home, avant, après les célébrations, dans les city groups, dans les Love Lausanne, on a des city hubs qui sont des plateformes vraiment d'intégration. Là aussi, vas-y, accueille les gens, fais les sentir comme à la maison, sentir à l'aise d'être là et de faire partie de la famille. Amen. Yes. Troisième table que j'aimerais dresser avec vous, la table de la communion. La communion, la communauté, la communion, ce qu'on appelle aussi la Sainte Cène. Okay. Et ce matin, j'en parle parce qu'on va prendre la Sainte Cène tout à l'heure. Mais il y a deux dimensions dans la Sainte Cène, et il y en a une dont on parle peut-être un peu moins. La première dimension, c'est cette dimension verticale, la relation entre Jésus et moi. Prendre la Sainte Cène, c'est s'identifier à la mort de Jésus et à sa résurrection. C'est-à-dire, en gros, je choisis de, comme Jésus, mourir à moi-même pour revivre, ressusciter en lui. Ça, c'est la dimension verticale quand on prend la Sainte Cène. Mais il y a une dimension qui est horizontale, le corps de Christ. L'unité entre les croyants. Et j'aimerais parler de ça, au dehors de la Sainte Cène, la table de la communion. Comment est-ce qu'on est liés les uns aux autres et comment on devrait vivre l'Église? Comment on devrait être l'Église, en fait? Et Paul en parle très bien. Dans 1 Corinthiens 12, si tu veux ouvrir avec moi ou cliquer dans ton application ou simplement lire au-dessus de moi, Paul en parle très bien. C'est un texte assez connu où il parle du corps. Mais on va s'arrêter un moment pour le lire. Parce que c'est vraiment bon, ça nous montre comment est-ce qu'on devrait vivre et s'aimer les uns les autres dans l'Église. Alors 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Le corps forme un tout, et pourtant, il a plusieurs parties ou plusieurs membres. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps », mais pourtant, il va quand même faire partie du corps. L'oreille peut dire « je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps », mais pourtant l'oreille fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment est-ce qu'on pourrait entendre? Et s'il n'y avait que les oreilles, comment est-ce qu'on pourrait sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, alors il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties ou plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire au pied « je n'ai pas besoin de vous ». Au verset 25, « il n'y a alors pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ses parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. » Yes, on est liés les uns aux autres. En fait, on est liés les uns aux autres et en fait, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être ce membre du corps qui dit « j'ai pas besoin du corps, j'ai pas besoin de toi ». Et tu comprends mieux pourquoi je dis « en fait, on a besoin de s'aimer les uns les autres ». Parce que tu ne peux pas dire « oui, oui, moi, je fais partie de l'Église, mais pas aimer l'Église ». C'est ce que le texte nous dit. Tu ne peux pas venir à l'Église et dire « moi, je viens que pour moi, je viens en tant que membre ». Ben non, oui, tu viens en tant que membre, mais tu fais partie du corps. Et vraiment, donc tu ne peux pas fonctionner juste toi seul comme membre individuel. On ne peut pas se considérer comme chrétien et pas prendre soin du corps. Tu ne peux pas juste venir à l'église et pas aimer home. Je ne peux pas dire que je suis chrétien et pas aimer home. C'est juste, ça ne fonctionne pas. Parce que être chrétien, c'est être membre du corps. Et donc, tu ne peux pas dire, ben voilà, est-ce que toi, tu aimerais te passer de ton bras? Non, on en a besoin. On en a vraiment besoin. Je ne peux pas représenter le corps de Christ si je n'aime pas les membres de son corps. Et je ne peux pas venir à l'église que pour moi, parce que je suis le corps. Idéalement, ça veut dire qu'on est liés les uns aux autres. En fait, on est liés bien plus que ce qu'on le pense par Jésus. Ce Jésus qui est en toi, l'Esprit qui est en toi, il est en moi. Et en fait, je devrais t'accueillir comme Christ m'accueille. Tu sais, quand tu vas prier, je ne sais pas si on est tous là, peut-être que tu n'es pas à l'habitude de la prière, et je t'encourage à le vivre peut-être chez toi. Quand tu viens devant Dieu, tu peux être toi-même. Peu importe ton passé, peu importe les choses les plus sales et les plus noires de ta vie, tu peux les exposer, demander pardon à Dieu, puis parce que tu sais que Jésus va te prendre comme t'es, qu'il va t'accepter et t'aimer malgré tout. Ce Jésus-là habite en moi, et je devrais t'accueillir comme Jésus t'accueille. Parce qu'on est liés par cet esprit-là. Et c'est super chaud, ça veut dire qu'en vrai, moi aussi, sachant que toi, tu peux m'accueillir comme Christ m'accueille, je ne devrais pas jouer de rôle, je devrais être authentique avec toi. Je ne devrais pas porter un masque. Parce qu'on est liés et parce qu'on ne forme qu'un seul corps. On ne forme qu'un seul corps. Je devrais t'aimer comme Jésus t'aime, et te voir comme Jésus te voit. Et comme je dis, c'est un standard élevé, je n'y suis pas encore, mais les amis, je prie. Je prie pour plus t'aimer et vous aimer, et plus aimer l'Église. Et tu sais quoi, on parle du corps, et puis ça peut être localement, l'Église locale, home, mais ça peut être l'Église universelle, toutes les Églises qui représentent le corps de Christ. Aimons-nous les uns les autres, parce qu'on ne dépend pas que de nous. On ne dépend pas que de nous, on est un corps, on est liés les uns aux autres. Et peut-être que ce n'est pas hyper clair pour toi, alors je vais te donner un exemple, une illustration qui explique très bien cet effet de corps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait l'armée ici? Quelques-uns, ok. Ouais, merci guys. À l'armée, il y a des choses qui sont vraiment incroyables pour te pousser à vivre l'esprit de corps. Premièrement, on te donne des vêtements. Tout le monde s'habille de la même façon. On t'apprend à parler d'une nouvelle façon, à marcher d'une nouvelle façon, te comporter d'une nouvelle façon. Donc tout le monde a quand même un peu une nouvelle vie et il n'y a plus de distinction. Il n'y a plus de distinction de classe sociale, de lui il est différent, lui il est plus stylé, lui il est plus intelligent, lui il est plus riche. Ça n'existe plus. On est un corps, on est unis. Et d'ailleurs, quand tu regardes l'armée et les gens des troupes qui marchent au pas et tout ça, généralement, ça dépend s'ils sont bien entraînés, ben, ils sont unis et c'est un corps et c'est impressionnant. C'est boum, ils sont tous là ensemble. Déjà là, c'est une bonne idée de le corps, l'unité, l'union. Et on n'est pas juste des individus différents, on est unis, on est unis. Mais la chose, je trouve, qui représente le plus le corps à l'armée et qui te pousse le plus au corps à l'armée, c'est que quand une personne fait une erreur, tous les autres payent. Et donc ça peut arriver que tu te retrouves devant la caserne au garde à vous, on est 500 personnes, et là une personne fait une bêtise, fait le guignol ou n'importe quoi. La réalité, c'est que lui va rester debout et les 500 autres personnes vont faire des pompes pour lui, à cause de lui. Mais lui, il n'a pas le droit d'en faire. Et il voit tous les autres payer à cause de lui. Tu ne fais plus d'erreur après. Ou alors, c'est ça, le matin, je me souviens, tu as 30 secondes pour être assis sur ton lit, au moment du réveil où on vient lancer une poubelle dans ta chambre et gueuler, pour te réveiller. Tu as 30 secondes pour être au moins assis dans ton lit. Si ce n'est pas le cas, toute la caserne se lève une demi-heure plus tôt le lendemain matin à cause de toi. Tu ne fais plus d'erreur. Et ce que ça déclenche comme comportement, c'est que au fur et à mesure, au début, tu te dis « comment moi je vais survivre ?» Mais en fait, tu te rends compte, moi je me suis rendu compte que si je veux que ça se passe bien pour moi, il faut que ça se passe bien pour les autres. Il faut que je prenne soin des autres pour que ça se passe bien pour moi. Et tout d'un coup, je pensais plus moi, mais je pensais nous. Est-ce que tout le monde est OK? Parce que si toi, tu souffres, on souffre tous. Okay. Et c'est pareil pour les victoires, exactement comme dans le corps. S'il y a une célébration, ce n'est pas l'accomplissement d'une personne, c'est nous. Et on célèbre en tant qu'équipe, en tant que section. Et c'est vraiment ça qu'on devrait vivre. Si quelqu'un souffre dans le corps, dans l'église, on devrait tous souffrir. On devrait tous se soutenir. Et si une personne se réjouit, ben on veut célébrer tous ensemble exactement ça. Et on ne devrait plus venir à l'église juste en disant « je vais venir avec ma vie, avec mes besoins pour vivre ma célébration, mais plus je vais rejoindre le corps. On va se retrouver en camp de corps. Est-ce que le corps va bien? Parce que si le corps va bien, je vais bien. Si le corps souffre, alors je vais souffrir et puis je vais entourer cette personne-là. On veut vivre le moi et on veut vivre cette proximité les uns avec les autres. À l'armée, c'est forcé, on n'a pas le choix. Ici, on ne va pas le forcer, je vous rassure. Mais c'est presque plus dur, du coup. C'est presque plus dur parce qu'on ne voit pas trop les conséquences, mais ça nous donne envie de nous aimer les uns les autres d'un amour extrême. On est liés, t'es lié aux autres. On ne peut pas juste venir à l'église, on est l'église, on est le corps. Donc, je veux juste t'encourager à plus venir à l'église juste pour toi. On doit vivre cette dimension verticale, c'est très bien, vivre ton temps avec Dieu, c'est important. Mais viens en pensant que tu vas voir des autres, en te souciant des autres, en faisant passer les autres avant toi, en honorant les autres, en les servant, en pensant en tant que corps, parce qu'on est le corps du Christ. Yes? La réalité, c'est que tu n'es pas obligé de venir à la table. Tu n'es pas obligé de faire partie de tout ça. Mais maintenant, tu sais ce que ça implique. Si tu veux, tu peux, tu sais ce que ça implique. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de mieux que de vivre ça ensemble, en fait. Moi, je pense aux disciples, j'ai parlé de Judas et puis ce que Jésus a fait, mais la réalité, c'est qu'ils ont dû délirer pendant 3 ans. Ça devait être fou ce qu'ils ont vécu, la proximité, vivre en tant que frères et sœurs, s'aimer les uns les autres, compter les uns sur les autres, être intentionnel, s'encourager, se faire des blagues. La semaine passée, je parlais des repas aussi, qui sont trop drôles, où tu ris tellement que l'eau sort par le nez, puis ça fait trop mal parce qu'en fait, c'est du coca, et que du coup, ça te fait encore plus rire et tout ça. Ça, c'est la vie. C'est la vie et on veut faire la vie ensemble. On veut s'aimer les uns les autres. Mais oui, ça coûte quelque chose. Il faut être intentionnel, il faut faire des efforts. Ça coûte de s'humilier, de servir les autres et tout ça. Mais ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc, il y a cette table de l'amour, cet amour extrême, cette table de l'honneur ou de l'inclusion, comme tu veux, où même Jésus a inclus Judas à sa table. Et puis, il y a cette table de la communion où on est un corps. On devrait vivre liés les uns aux autres. Pas juste moi tout seul, mais tous ensemble en tant que corps. On va terminer cette célébration par un temps de Sainte-Cène. Comme j'ai dit plus tôt, la Sainte-Cène, ça implique ces deux dimensions. Et je veux vraiment qu'on vive ces deux dimensions dans ce temps-là. Deux mots sur cette dimension verticale, un peu comme juste le rappeler. J'ai beaucoup parlé de cette dimension horizontale. Et je crois qu'on veut le vivre aussi dans ce temps de Sainte-Cène. Mais cette dimension verticale, juste le rappeler, c'est s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Prendre ce pain et ce vin, du moins les éléments qui symbolisent le corps et le sang, des biscottes et du jus de raisin pour nous, c'est le symbole qui est important. C'est s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. Participer à la Sainte Cène, c'est dire que Jésus est mon sauveur, que je ne vis plus pour moi mais pour lui, que chaque jour je fais mourir ma volonté pour vivre la sienne dans ma vie. C'est cette dimension verticale, c'est se souvenir de ce sacrifice qu'il a fait. Parce que Jésus, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à l'oublier. Et parce que rapidement, on ne remet plus Jésus au centre de notre vie. Et prendre cette Sainte Cène, c'est se souvenir de ce sacrifice, d'en être reconnaissant. Reconnaissant, se souvenir de ce qu'il a fait et remettre Dieu et Jésus au centre de notre vie. Se rappeler de le faire passer avant nos études, ou plutôt de le mettre au centre de nos études, au centre de notre travail, au centre de notre famille, au centre de nos rêves, que Jésus soit le centre. C'est ça, prendre la Sainte Cène, s'identifier, faire mourir nos rêves pour vivre ceux de Dieu pour nous. Et c'est ça qu'on veut vivre ce matin. Alors, si tu es là ce matin, que tu t'identifies à la mort et la résurrection de Jésus, prends ce repas. Mais peut-être juste, si c'est quelque chose de nouveau pour toi, je veux que tu te sentes à l'aise de ne pas le prendre non plus. Si tu n'es pas habitué, tu ne comprends pas tellement ce que ça veut dire, si tu n'as juste pas du tout envie de t'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus, laisse simplement passer le plateau, il n'y a pas de stress. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas inclus à la table ou que tu n'es pas inclus. Donc les plateaux place, mange et bois pas tout de suite. Garde-le dans ta main, on va faire ça en tant que corps, ok? Mais donc, sens-toi à l'aise de prendre ou de ne pas prendre. Personne ne regarde, il n'y a aucun problème. On veut faire la vie avec toi de toute façon. Et puis, tu fais partie de la famille de toute façon. Alors qu'on garde ça dans nos mains, j'aimerais qu'on prenne en pensant à ces deux dimensions, comme j'ai dit. Vertical, je donnerai l'ego hein, pour manger, pour boire ensemble. Pensez à cette dimension. Priez pour remettre Jésus au centre de ta vie. Te rappeler que Jésus veut être partout dans ta vie au centre. repenser peut-être ces fois, on peut déjà même fermer les yeux, repenser ces fois, et puis Billy, si tu me rejoins juste pour gratter un peu en fond, merci. Après, on prendra aussi un temps de prière. Mais juste, alors qu'on va prendre ces éléments, vraiment dans ces deux dimensions, remettre Jésus au centre de ta vie. Et peut-être tu prends pas la Sainte Cène, peut-être tu n'es pas habitué à prier, ou peu importe, mais je t'encourage à t'adresser quand même à Dieu dans ce temps-là, et puis à chercher Jésus, et à le mettre au centre de ta vie, puis à découvrir ce que c'est que la vie avec Dieu, qui est incroyable. C'est faire mourir notre vie, nos désirs, notre volonté, nos rêves, nos plans, notre carrière, pour vivre les désirs de Dieu pour ta vie, ses plans, sa carrière. Je peux t'assurer d'une chose garantie, 100%, ce que Dieu a pour toi est mieux que ce que tu as pour toi-même. Donc on va prendre ça en pensant à ça, mais aussi dans cette dimension horizontale, en pensant au fait qu'on est connectés les uns aux autres. Jésus est dans chacun d'entre nous. Et qu'en fait, on représente ce corps qui a été rompu, qui est divisé en plusieurs morceaux, c'est nous, le corps de Christ. Pense à tes voisins, aime-les. Tous ensemble, on forme ce corps de Christ, on forme l'Église que Jésus a envoyée et qu'il aime. Juste incroyable, juste incroyable. Alors on va prendre ces éléments et je vais reprendre les mots de Paul dans 1 Corinthiens pour nous diriger. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » On peut prendre le pain tous ensemble. De même, il prit la coupe aussi, après le souper, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez, en mémoire de moi. » Et on peut boire ensemble. On peut fermer les yeux, on va rentrer dans un temps de prière maintenant. Tu pourras jeter tes petites coupes dans la poubelle au fond après. On peut prendre ce temps de prière. Pour vivre ces deux dimensions. Verticale, ce que tu as à mettre en règle peut-être avec Dieu, mais aussi horizontale, en tant que corps. Et je veux t'encourager peut-être aussi à prier pour les gens à côté de toi, pas forcément poser ta main pour que chacun puisse être libre de vivre son temps. Mets-toi en prière devant Dieu, mets ta vie devant Dieu. Je vais laisser Billy gratter un petit peu, puis je vous laisse le temps de prier, puis de vous introspecter, de mettre ça devant Dieu. Et je terminerai en priant. Jésus, on veut prendre le temps de te dire merci. Merci pour la croix, tout ce que ça a impliqué. Au commencement, Seigneur, les premiers hommes ont désobéi, ça fait rentrer une corruption dans le monde, dans leur vie, ce qu'on appelle le péché, séparation avec toi. Mais Jésus, t'es venu sur terre pour accomplir ce que personne d'autre ne pouvait accomplir. mourir à la croix, faire mourir le péché. T'as pris notre place alors que c'était nous qui devions mourir, c'était le prix à payer pour cette corruption, pour ce péché, t'es venu mourir à notre place. T'as pris le péché sur toi et le péché mort avec toi. Mais toi, t'es ressuscité, Seigneur. T'es ressuscité, tu es vivant aujourd'hui. Tu es vivant, tu es là et tu nous aimes, tu nous as donné cet accès direct, Seigneur, au Père, à ta présence, à ton amour, à ton esprit, à la guérison, la réconciliation, à tout ce qu'on peut vivre ensemble, Seigneur. Merci pour l'Église que tu as envoyée. Merci parce qu'on peut vivre, Seigneur, le corps, on peut être le corps, on peut s'aimer les uns les autres. Tu nous as créés des êtres relationnels. On a besoin les uns des autres et Seigneur, tu vois à quel point c'est tellement pas naturel, à quel point c'est difficile parfois, à quel point dans l'Église et en dehors, on peut des fois se faire du mal, se blesser les uns les autres. On est humain, ça arrive. Aide-nous, Seigneur, à passer par-dessus. Aide-nous à pardonner. Quand ça ne fait pas de sens, quand c'est difficile, aide-nous à guérir, Seigneur. Et je veux mettre devant toi toutes les personnes qui sont ici, qui ont été blessées. Blessées par d'autres, blessées à cause de personnes. Je l'ai dit dans l'église, il y a des gens ici qui sont blessés par d'autres personnes dans l'église. Ici même, d'autres églises, des leaders, d'autres frères et sœurs. Seigneur, je remets cette personne entre tes mains. Je te prie que tu viennes dans leur vie, dans leur cœur, que tu viennes passer un baume. Que tu viennes poser ta main sur leur vie et leur faire du bien. Viens les aider à guérir, viens les aider à pardonner. Alors que peut-être il y a des souffrances qui sont là encore, juste penser à cette personne, à ces Judas dans nos vies, ça vient nous irriter. Il y a une colère, peut-être une honte, une haine qui remonte. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, d'accueillir ça. Viens, Seigneur, porter ça comme tu l'as porté à la croix. Viens libérer les gens de cette souffrance, de cette haine, Seigneur, peut-être des critiques, Seigneur, des paroles de mort qui sont faites vis-à-vis de ces personnes-là. Aide-nous, aide chacun d'entre nous à dresser des tables d'honneur. Honorer les gens, respecter les gens, pardonner les gens, aimer les gens de cet amour extrême qui ne fait pas de sens. Libère les gens, Seigneur, des poids qui sont ici. Aide-les à guérir de toutes les souffrances que les gens ont faites. Seigneur, tu vois, plusieurs d'entre nous ici, on a peur de créer des relations par peur d'être blessés. Aide-nous à croire en l'amour, à croire en l'amitié, à croire en la fraternité, à croire en la communion, à croire en l'Église tout à nouveau. C'est toi qui l'as instituée. C'est toi qui nous envoies en tant qu'Église. C'est toi la tête de l'Église. Tu nous diriges, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es mort à la croix de cet amour extrême et tu nous as montré dans ton dernier repas comment on pouvait vivre cette table entre nous. Comment vivre cet amour extrême. Seigneur, c'est ma prière pour moi le premier. Change-nous, change-moi, transforme-moi. Ouvre mes yeux, que je puisse voir comme tu vois. Seigneur, que je puisse écouter comme tu écoutes, que je puisse aimer comme tu aimes. Je te prie, Seigneur, pour que les liens qu'il y a entre nous ici soient plus forts, qu'on puisse voir Jésus en l'autre, qu'on puisse se voir en les autres, les uns les autres, qu'on puisse vivre comme corps, penser comme corps, prendre soin les uns des autres, Seigneur, se soutenir les uns les autres, qu'on puisse vivre ce moai, ces liens sociaux forts, qu'on puisse prendre des nouvelles, s'encourager, s'aimer, se réjouir ensemble, pleurer ensemble. Permets-nous de vivre l'Église, d'être l'Église, de nous aimer les uns les autres. Et je te prie, Seigneur, que cet amour reste surtout pas ici, Seigneur, dans ces quatre murs, mais que cet amour sorte, Seigneur, que cet amour qu'on vit, nous, Seigneur, on puisse l'emmener dans nos vies, Seigneur, dans nos familles, dans notre travail, dans nos études, auprès de nos enfants, Seigneur, dans notre coiffeur, dans les cours de danse, dans les cours de salsa, tout ce qu'on peut faire en dehors, qu'on puisse aimer les gens d'une façon intentionnelle, qu'on puisse vivre la vie, faire la vie avec ces gens et dresser des tables tout autour de nous. Permets-nous de répandre ton amour, cet amour extraordinaire qui va peut-être choquer les gens comme Pierre. Permets-nous d'inclure les Judas à nos tables. Permets-nous d'être plus comme toi. Seigneur, merci. Gloire à toi pour tout ce qui se passe ici. Merci parce que tu nous aimes, Seigneur, et que tu nous aimeras toujours, peu importe qui on est. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour qui tu es. On l'a prié tous ensemble et on peut dire tous ensemble un grand Amen. Amen. Amen et gloire à Dieu. Merci.
Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch.